qu'est-ce qui définit vraiment l'échec ? Imagine-toi être en cessation de paiement et devoir près de 20 millions de francs, soit l'équivalent de 4 millions d'euros. Si tu penses que c'en est un, reste bien jusqu'à la fin. Tu découvriras cette expérience sous un autre angle et tu verras que notre invité du jour n'est pas du genre à baisser les bras facilement. Nous sommes avec Jean-Pierre Nadir, entrepreneur et investisseur à succès. Précurseur d'Uber Eats, il a créé en 1987 le premier service de livraison de pizza à domicile à Paris. Le premier en Europe à faire ça dans les années 80. Puis, il a excellé dans le domaine de la presse auprès de Robert Laffont et devient alors actionnaire du groupe Entreprendre. En 1990, il fonde le groupe Les Éditions de Demain, qui se hissera parmi les 15 premiers groupes de presse français. En l'an 2000, il crée la plateforme Easy Voyage, qu'il mène dans le top 4 des meilleures plateformes de voyage en Europe, avec plus de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. En 2021, il reste dans le domaine du tourisme en fondant Fairmove, une agence de voyage en ligne qui mise sur l'écologie, l'éthique et l'immersion. Son parcours te semble sans obstacle ? Si tu es entrepreneur, tu te doutes bien que ça n'existe pas et le parcours de Jean-Pierre Nadir ne fait pas exception. Alors qu'il avait depuis le début l'étiquette du petit génie de l'entrepreneuriat, il va faire ce choix qui le mènera à devoir l'équivalent de 4 millions d'euros et à prendre ses responsabilités pour sauver son entreprise. Il nous partage ce moment décisif qui a su conditionner toutes ses réussites futures. Chez Paradox, nous avons adoré sa détermination à atteindre ses objectifs, tout comme son empathie, qui selon lui est une qualité essentielle pour réussir dans l'entrepreneuriat. Alors prends note, car Jean-Pierre Nadir te dévoile comment activer sa résilience et renforcer sa crédibilité avec sa stratégie de marketing direct. Et si après avoir visionné cette interview, tu souhaites en savoir plus, ne manque surtout pas l'épisode spécial sur son enfance et ses débuts. Il te raconte comment il est sorti de sa zone de confort pour tenter sa chance à Paris, et c'est en exclusivité sur la chaîne David Laroche FR. Le lien est dans la description. Bon visionnage.
Si on essayait un petit peu d'apprendre de toi, dans ta capacité à... Ce que la vie t'a forcé à développer, qu'est-ce que tu fais qu'on peut tous apprendre et qu'on peut tous faire, en fait ?
Ah ben moi, je vais te dire, la première leçon, donc, c'est l'empathie. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que moi, je suis empathique. Voilà. Et donc, je suis empathique naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime parler avec les gens, j'aime rendre service. Et je trouve qu'effectivement, donc, quand tu te mets en situation, encore une fois, de faire le bien, eh ben, t'en récupères beaucoup plus, si tu veux, que tu donnes. En fait, tu donnes et t'as un ROI, pour parler en termes de business, qui est démultiplié. Donc, en fait, moi, je pense que c'est con d'être con. Ça te retire plein de choses, tu vois. Donc, être en paix avec soi-même, considérer qu'on est, si ce n'est un homme bien, en tous les cas, là où on voulait être, tu vois. Je pense que c'est important. Moi, quand je vois rétrospectivement l'enfant que j'étais, je suis assez convaincu qu'à part quelques éléments comme la prise de poids, etc., l'enfant en question serait assez satisfait de l'homme que je suis devenu.
C'est-à-dire que si le toi de 12 ans, il voyait, il se dirait waouh, quoi.
Il se dirait, c'est pas mal, quoi. Voilà. Parce que lui, il sait de là où on est parti, quoi. Il dirait de là où on est parti, c'est pas mal, quoi. Voilà. Finalement, cette vie était belle.
Et justement, qu'est-ce qui, avec du recul, tu trouves le plus beau dans la vie que tu t'es créée ?
Bah, d'avoir réalisé quand même plein de choses que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais faire du business, j'ai fait du business. Moi, j'étais à Châtelain, je connaissais personne, j'avais aucun réseau. Pour moi, déjà, un mec qui tenait donc une supérette, c'était un héros économique. Et d'un seul coup, je découvre les bouquins de Sully Zer. Voilà. Et là, je découvre Money Cash Fortune et je découvre ce personnage, Simbali, qui part de rien, qui arrive en Afrique du Sud avec sa montre, qui vend sa montre en or et qui, à partir de là, donc, fait une fortune et après venge son père, etc. Et moi, voilà, tout de suite, je me suis dit, je pourrais être ce mec-là. Voilà. Et c'est pour ça que les relations sociales, évidemment, c'est très fort en termes d'exemple. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est un élément important qui fait la différence de la relation sociale, c'est la sincérité. En fait, quand les gens sentent que tu es sincère, et ça se sent, eh bien, évidemment, ils adhèrent beaucoup plus aux propos. Et l'insincérité, en fait, c'est tromper les gens et c'est survendre des choses qui font qu'après, tu te sens, toi, donc totalement déphasé par rapport à ce que tu penses être le niveau de certains. Et donc, j'ai trouvé des domaines d'expression dans lesquels, en me comparant, eh ben, j'ai vu que finalement, je devais pouvoir me débrouiller. Et donc, comment j'ai fait ? Eh ben, j'ai fait une école de pub.
Si on prend une de tes boîtes, on peut passer sur comment tu trouves l'idée et aussi ensuite comment ça se construit de recruter des équipes, développer l'entreprise.
Je suis à l'école de pub, j'ai pas un rond et j'ai donc des rêves de grandeur, de créer des boîtes, etc. Alors que je sais même pas comment on fait, hein, donc j'ai pas le début de réalité. Mais là, j'ai des cours de marketing, etc. Donc je commence à monter donc mon niveau de jeu. Et donc là, je dis, je veux créer une boîte. Et donc, pour répondre à ta question, comment, d'où vient l'idée ? Je suis à Neuilly, un midi, et je vois toutes ces terrasses remplies, toutes ces brasseries remplies, etc. Donc tous ces gens qui sortent des bureaux et qui vont dans les restos. Et je me dis, est-ce qu'on pourrait pas donc aller voir ces boîtes et leur proposer de livrer ? Et donc, je vais voir les boîtes en question, je prends des rendez-vous et je signe des contrats donc avec ces boîtes pour les livrer.
Donc là, tu n'as pas d'équipe en fait. Finalement, tu joues le rôle de commercial.
Exactement. Alors, mon pote me dit, mais comment on va faire, etc. Ben, j'ai dit, on va aller voir des restos qui ne bossent pas le midi et on va leur proposer de livrer. Et donc là, j'en invente quelque part Uber Eats, quoi, tu vois. Donc, je vais à Level Opéré, je vais voir des restos, donc un resto français, un italien, un oriental et un asiatique. Et je leur dis, ben voilà, vous travaillez le soir, pas le midi. Le midi, je vous propose de bosser pour moi, vous produisez et on va livrer donc les boîtes. Donc là, ils me font un transport. Donc j'ai un copain qui a une deux chevaux, enfin, copain, je connais un gars qui connaît un gars qui cherche du boulot, qui a une deux chevaux. Je lui dis, écoute, si tu veux, tu viens avec nous et tu fais les livraisons, etc. Et on commence comme ça et ça se développe. Mais quelque part, ça se complique parce que le gars avec la deux chevaux, donc récupérait, donc on prenait les commandes avant 11h, récupérait tous les plats, les amenait, etc. Donc des fois, il était en retard et tout. Donc ça se complexifie. Et je me suis dit, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Tu vois, et donc avec ce modèle-là. Donc l'un des éléments à retenir, au-delà effectivement de ma faconde et de cette espèce de détermination donc, qu'on perçoit en général, c'est aussi donc je sens les signaux et je dis principe de réalité, notre truc va aller dans le mur. Donc je me dis comment je peux faire pour améliorer le dispositif, donc sans avoir 4 mecs avec des deux chevaux ou 5 mecs, etc. Parce que de toute façon, j'en ai pas les moyens et cette logistique, elle va me flinguer. Et donc, je me dis, bah, de toute façon, un truc qui marche bien, donc, c'est la pizza. Et donc, je vais me mettre dans la pizza et je vais livrer donc, le midi et le soir. Et là, je vais ouvrir complètement donc, mon business. Voilà. Là, je vais démarrer la livraison. Mais attends, ça n'existe pas. Hein. Je suis le premier en Europe. On est en 87, tu vois. Donc, à l'époque, il n'y a pas un mec en Europe qui fait ça. Alors, comment j'ai eu l'idée? Parce que j'avais lu 3 lignes dans Le Monde des Affaires sur Domino's Pizza qu'il se lançait aux États-Unis et on disait que le mec avait fait 200 ou 300 et qu'il allait développer une franchise, pas quoi. 3 lignes, tu vois. J'avais retenu ce truc-là.
Et les clients, juste, c'est des boîtes, toujours?
Alors, au début, les boîtes. Et puis après, je me dis, les particuliers. Et comment je fais les particuliers?
Oui, parce qu'il n'y a pas Internet. Comment?
Rien. Donc, eh ben, je fais Internet avant l'heure. C'est-à-dire que c'est quoi Internet a permis quoi dans le commerce ou a changé quoi fondamentalement? C'est d'avoir le contact direct avec le client et en transformant tes clients en ambassadeurs. Et donc, en créant des communautés. Bon, c'est le grand truc du web. La grande révolution quand même du web, c'est d'avoir créé des communautés autour des marques avec même des consommateurs militants qui font la promotion de ta marque.
Comment t'as fait ça?
Alors, comment j'ai fait ça? J'ai été voir tous les petits commerçants de Neuilly et de Levallois. Je leur ai proposé de mettre une affiche sur leur vitrine, Miss Pizza, ça avait mon truc, un triangle avec une fille en scooter, Miss Pizza. Donc j'avais fait l'école de pub, donc moi j'avais quelques réflexes. Un petit présentoir donc avec des leaflets à la caisse. En contrepartie de quoi, je leur donnais 2 pizzas, 2 salades par mois. D'accord? Du coup, bah, premier truc, donc ils goûtaient les produits. Donc deuxième truc, quand ils devenaient vraiment ambassadeurs, c'est quand les gens rentraient, qui disaient mais c'est quoi ce truc là, que cette affiche que t'as, etc. Donc Martine, donc elle disait ah bah c'est des petits jeunes là, ils font des pizzas. Moi j'en ai mangé, donc c'est vachement bon. Donc ça, du coup, j'ai créé un bassin de relais énorme. Et donc après, une fois qu'ils avaient pris le pli, la plupart commandaient régulièrement.
Je trouve que c'est une vraie clé business de comment je peux, je sais pas comment dire en français, tap in, mais je peux solliciter, enfin mobiliser un réseau, ouais, existant. Ouais. Là, typiquement, le réseau des petits magasins.
Qui, eux, ont une relation avec leurs clients.
C'est ça.
Tu vois, ils sont potes avec leurs clients. Et donc, en fait, c'est des vrais ambassadeurs légitimes, tu vois, c'est ça qui est important.
Donc ça, c'est une question qu'on peut tous se poser, de les clients que je veux toucher, ils sont eux-mêmes touchés par qui? Comment je peux y accéder à eux?
Très bonne formulation, bien meilleure que la mienne, effectivement. Et en fait, la problématique, c'est où sont les énergies et quels sont les leviers sur lesquels je peux appuyer?
Et encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant dans toute ton histoire, c'est que tu utilises à chaque fois, dans ce que tu me racontes, là où tu es vraiment très fort. C'est-à-dire que pour utiliser ce levier, bah, ça demande d'être bon relationnellement. Donc tu as un, comment j'utilise un réseau existant qui, eux, est au contact de mes clients?
Et attends, et là j'ai une formule là-dessus qui est très très importante, que j'ai pas dit là et que qui correspond quand même. Je t'arrête juste parce que ça correspond à ce que tu es en train de dire. Si tu veux, ça apporte un complément. C'est que ce qui est important, c'est pas ton ambition de réussir. Ce qui est important, c'est que tu transmettes cette ambition à d'autres et que tu crées le désir de ta réussite chez les autres. Voilà. Et moi, j'avais créé un réseau de supporters. Ces commerçants voulaient ma réussite parce qu'elle était un peu la leur, parce qu'ils m'avaient vu démarrer, parce que j'étais un peu des leurs, parce qu'ils m'avaient vu marner et qu'ils trouvaient que j'étais méritant, parce que mon discours leur plaisait, parce qu'ils avaient été les premiers testeurs et que du coup, ils se sentaient un droit de fondateur aussi, un peu de cofondation.
Mais ça, comment je recrée ça?
Par l'explication. Moi, je n'ai jamais été avare d'explications. Moi, j'allais dans un commerce, si le mec était sympa, ça accrochait, etc. J'expliquais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le concept, le truc. Après, je repassais.
À quel point le fait que tu sois jeune a influencé?
Ah bah beaucoup, beaucoup. Parce qu'à l'époque, si tu veux, j'ai 21 ans, personne ne crée de boîte à cet âge-là.
Oui, donc tu as envie d'aider un jeune. Mais alors du coup, imaginons quelqu'un nous écoute à 35, 40, 45, peu importe. comment il recrée ce phénomène-là. Il a identifié un pool de personnes qui, eux, est au contact des clients qu'il veut. Une des questions que tu amènes, c'est comment je fais quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde et qu'ils y aient un intérêt. Mais là, tu amènes un truc en plus, c'est que presque émotionnellement, ils ont envie que ça se passe. Comment je crée ça, en fait? Comment je... Si j'ai pas 21 ans.
Je pense que les valeurs que tu défends, si tu veux, donc pour reprendre maintenant tous les pitchs donc, qui nous sont proposés, encore une fois, que ces valeurs...
Que l'ambition du projet leur parle.
Voilà, soit forte et que tu te sembles sincère par rapport à ta capacité à les défendre. Tu vois, pour ça que je reviens sur cette histoire de sincérité, je pense que l'empathie, la sincérité et le courage, voilà, c'est les trois piliers, à mon avis, les plus importants pour entraîner ce que tu viens de dire. Le courage, parce que ça crée de l'exemplarité. Quelqu'un qui se donne autant, bah, il mérite quand même effectivement donc, d'y arriver, tu vois, donc... L'empathie, parce qu'évidemment, t'as envie de, si tu passes du temps à expliquer, etc., bah, il faut mieux que le gars se marre un peu, etc., et que ce soit du temps gagné, tu vois, donc pour lui aussi en termes d'élévation. Et la sincérité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si t'es insincère, les gens le sentent, quoi. Et à ce moment-là, si tu veux, tout s'écroule. Tout ce que t'as expliqué, même si l'explication, elle est cohérente, si tu veux, en fait, t'as pas envie d'adhérer à quelque chose auquel tu ne crois pas. Voilà. Quand t'es convaincu, t'es convaincant. Mais t'es convaincant parce que le mec sent que ta conviction, elle est réelle. Elle n'est pas feinte. Elle n'est pas marketée. Voilà. Mmh. Et dans un monde aujourd'hui où, en fait, tout est marketé, eh ben, je pense que parfois, effectivement, donc, juste un peu de sincérité, ça peut emporter toutes les adhésions.
C'est clair. Et d'ailleurs, tu peux utiliser le marketing pour amplifier quelque chose qui est sincère plutôt que d'essayer de marketer un truc qui ne l'est pas.
Exactement. Parce que souvent, c'est l'inverse. Hein. Les mecs marketent d'abord. Tu vois, un commercial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Et je te sers ce que tu as envie d'entendre pour à la fin te vendre ce que j'ai à te vendre. Tu vois, donc, alors que moi, je pars donc, d'un projet avec des valeurs, il y a une sincérité, j'y crois à fond. Et après, j'embarque les gens autour de cette conviction. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, j'ai du mal aussi à partager, tu vois, donc les prises de décision. Quand je donne des conseils à des start-upers, je suis bien meilleur quand je suis tout seul que si on est à un board, etc., avec tout le monde qui ramène sa fraise. Et à la fin, j'ai l'impression que finalement, l'impact se dilue. Je sais capter ce que les gens ont à donner. Je sais le synthétiser et le restituer et en faire une voix. J'ai beaucoup plus de mal à additionner les qualités de plein de gens pour atteindre, en tous les cas, en faire un tout qui sera meilleur. Parce qu'en fait, mon modèle, il est quand même basé sur ma capacité à entraîner, à engager autour d'une vision, quoi. Tu vois, Mandela, je sais pas, ou même encore mieux, Gandhi, pour essayer de trouver des gens éclairés et qui ont entraîné des gens derrière eux, si tu veux, donc, ou Martin Luther King. Ils partageaient pas le pouvoir, les mecs. C'est eux qui avaient la vision et ils entraînaient derrière eux.
Non, c'est que là, il y a un super bouquin qui s'appelle Inspired qui décrit comment les boîtes tech créent des produits incroyables et il décrit la distinction entre missionaries et mercenaries, donc les missionnaires et les mercenaires. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est-à-dire que si tu recrutes des gens qui sont des mercenaires qui potentiellement sont très bons, ils vont juste vouloir faire leur tâche pour un montant d'argent et après partir. C'est très différent de gens qui sont portés par un projet. Même si demain, une boîte concurrente venait leur proposer un job, ils n'auraient pas envie parce qu'il n'y a pas la même mission.
Voilà. Et je pense que le supplément d'âme, en fait, c'est un terme très important. Eh bien, il naît de tout ce qu'on a dit donc préalablement. Et effectivement, quand t'es en mission, eh bien, t'as une énergie qui est démultipliée forcément.
Et moi, ce que je vois, en tout cas, ce que je vis dans ma boîte, c'est que c'est pas quelque chose que tu peux effectivement écrire en disant qu'est-ce qui va parler aux gens. Mais c'est l'inverse, c'est qu'est-ce qui, moi, à l'intérieur de mon bid, me parle, m'inspire. Je te parlais tout à l'heure de créer une IA qui va permettre de coacher des millions de personnes. Ça m'inspire vraiment, ça me réveille le matin.
Ouais, ça t'habite.
Ça m'habite. Et donc, du coup, je peux derrière la marketer, mettre les bons mots, mais si à la base, à l'intérieur de moi, ça ne me parle pas, je vais avoir du mal à tenir dans le temps le discours.
Et surtout, si tu veux que, entre ta vision et ta capacité à délivrer, il va se passer un tas de trucs et tu vas devoir faire preuve d'agilité. Tu feras des pas de côté, tu feras des pas en arrière, tu auras des moments d'accélération et tu vas devoir porter tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a que le leader qui peut trouver la voie et parce qu'en fait, c'est tactique. Et que tu vois, des fois, par exemple, moi, les gens me disent « t'as changé d'avis », tu vois, donc etc. Ben, j'ai oui, parce qu'effectivement, c'est pas moi qui change d'avis, c'est la situation qui se présente différemment à moi. Tu vois, le business, souvent, tu te lances, t'as 10% des solutions à disposition, sinon tu n'en serais jamais, si tu veux, si t'attendais d'avoir 90%. Et chemin faisant, tu fais preuve d'agilité, de compréhension, d'instinct, d'intuition, et tu trouves la voie au fur et à mesure. Moi, je crois pas aux gens qui, dès le départ, savaient exactement où ils vont. Donc, il y a la vision qui donne le point d'arrivée, et puis après, il y a le sens tactique qui te permet effectivement de t'ajuster.
Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir.
jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini, où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit: j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HBI. Et quand je l'ai testé, il y a quatre choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclue dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser, et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HBI, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regardez HBI, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HBI, gros coup de cœur.
Là, dans le business que tu décris, typiquement, c'est facile pour moi de voir comment, entre guillemets, il correspond vraiment à qui t'es et tes forces. Dans le cas d'Easy Voyage, on est sur Internet. Tu peux me décrire un peu plus?
Pour résumer cette première phase de ma vie, parce qu'à ce moment-là, donc, je rencontre Robert Laffont, qui fait le magazine Entreprendre, et je m'associe avec lui. Donc, comment je m'associe avec Robert? Ça a souvent été une technique dans ma vie. Donc, enfin, une technique, ça a été une réalité. C'est que je le rencontre, il a un canard qui est un peu chipos, et il me dit: qu'est-ce que t'en penses et tout. Et je lui dis: écoute, il y a un tas de trucs qui vont pas, etc. Voilà. J'ai 22 ans, j'ai jamais fait de presse de ma vie, etc. On pourrait se dire: mais c'est qui ce petit con? Donc, qui ramène sa fraise, etc. Donc, il me pose une question, moi, je réponds. Il me dit: viens bosser avec moi, comme ça on va améliorer tout ça ensemble. Il me dit: donc tu veux du salaire? Et moi je lui dis: non, je veux du capital. Et donc je lui dis: je veux un modèle pour accéder au capital. Parce qu'au début, première phase de ma vie, ce qui fait la différence, c'est mon énergie. Et donc j'ai pour capital, comme disait la chanson, donc ma gueule. Voilà, moi j'avais pour capital effectivement ma grande gueule et surtout mon énergie. Voilà.
Ta grande gueule, ton énergie et le côté un peu pub que tu as développé aussi.
Ouais,
le,
et après,
la bonne phrase, le bon, la bonne manière de...
C'est vrai, la compréhension des choses et la manière de le reformuler de manière compréhensible pour le plus grand nombre. Ça, c'est clair. Donc à embarquer les gens, parce que s'ils ne comprennent pas, tu ne peux pas les embarquer. Donc voilà, donc ça, c'est mon capital de départ. Et là, je me dis: maintenant, il faut que j'ai du capital tout court, quoi. Et donc, pour pouvoir accélérer derrière. Donc, je dis à Robert: voilà, moi, le salaire, je m'en fous. Donc, tu me files ce que tu veux. Le SMIG, voilà, rien à cirer. Par contre, je veux donc pouvoir monter en puissance, et puis tu me files un peu de bonus et tu me files surtout un plan d'action. Et il me fait un plan où je pouvais monter à 15% des actions de la boîte. Et Robert donc me fait un plan en 15% pensant que ça allait me prendre 5 ans pour y arriver, quoi. Et en fait, je sais pas, en un an, j'avais mes 15% parce qu'on a cartonné.
Qu'est-ce qui explique que vous avez cartonné?
3 choses. Moi, je connaissais bien le marketing direct pour développer les abonnements.
Décris le marketing direct.
Alors, le marketing direct, à l'époque, on faisait donc des mailings pour proposer donc aux gens de s'abonner donc au magazine.
T'étais bon en copywriting, en écriture?
Voilà, de... j'étais bon là-dedans et j'étais bon dans les méthodes, dans la manière effectivement donc de faire. Et je m'étais dit, à l'époque, les gros pourvoyeurs, c'est l'Express, Le Point, etc. Donc, ils ont des 500 000 abonnés. Et eux, pour faire de l'abonnement, ils offraient des cafetières, etc. Et donc, tu avais la cafetière donc, à 150 €. Enfin, à l'époque, en France, 150 francs. L'abonnement qui en valait 300. Tu mettais tout ça ensemble, 450, moins 50 €, moins 50%. Et tu avais le tout pour 225. Et en fait... Le prix de l'abonnement, la machine, il l'achetait en Chine, ils achetaient des cargaisons, donc il l'achetait à 30 balles. Donc, et les abonnements, donc ça leur permettait de couvrir les frais d'impression donc, et de transport et de distribution. Et tout le pognon était sur la pub, puisque évidemment, plus tu avais d'abonnés, plus tu avais d'audience, plus tu vendais cher la pub. Et à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de pubs, les régies publicitaires. Donc, tu avais, je sais pas, un car comme l'Express, tu avais 10 ou 12 commerciaux, quoi. Donc, c'était des bataillons entiers. Donc, moi, j'ai pris le problème dans l'ordre. Un, on a amélioré le canard.
Donc, améliorer le canard, c'est améliorer le contenu.
Ouais, le contenu.
Et quand tu dis le contenu, c'est le texte ou le design?
Les deux. La maquette était pourrie.
Et comment t'as fait?
Moi, comment je fais? C'est très simple. Moi, comment je fais? D'ailleurs, quand j'ai lancé mon magazine de voyage, si tu veux, donc j'ai fait comme ça. Je vais dans une librairie. Voilà. J'achète tous les canards, je prends une paire de ciseaux, je découpe et je fais mon canard idéal. Voilà. Et je dis, bah voilà, cette rubrique-là, elle est géniale. Par exemple, les shopping, tu vois, tu peux te dire, tiens, un magazine de business, pourquoi tu ne mettrais pas des shopping? Mais évidemment, avec que des produits qui sont liés donc, au monde de l'entreprise, tu vois, etc., etc. Et donc, je fais mon canard idéal. Et après, évidemment, il y a un coût. Donc là, on discute et on dit, bah, ok, mais ce canard-là, comment on peut le faire? Ben aujourd'hui, on le fait sur 2 ans, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas les frics, donc on va l'améliorer. Donc, un, on l'améliore. Deux, donc, on développe une politique de marketing direct qui s'autofinance et même qui gagne du fric.
Donc, marketing direct dans le sens qu'il y a du mailing qui
part
en direction des particuliers.
Enfin non, des boîtes. En l'occurrence, j'attaque toutes les boîtes. Et je dis, en France, il y a quand même de boîtes. À l'époque, il y a 1 340 000, tu vois, je me rappelle encore du chiffre, donc entreprises de plus de 10 salariés. Et donc, je récupère le fichier et j'écris à ces mecs-là.
Mais c'est quoi la promesse?
Ah bah c'est abonnez-vous au magazine d'entreprendre pour avoir toutes les clés du business, savoir effectivement donc avant les autres ce qui va se passer.
C'est toi qui écris ça?
Exactement, ouais, c'est moi qui écris ça. Avec Robert, Robert est très bon aussi, on fait ça à deux. Avec Robert, en fait, on se complète tout de suite, on voit que ça marche entre nous. On passait les soirées, moi si tu veux, je gagnais le SMIC, j'allais chez lui, on restait jusqu'à 1h du matin. On avait cette culture de tout est possible et si les autres savent le faire, nous aussi quoi. Donc on décortiquait les emailings de ceux qui réussissaient et puis on disait bah voilà, tiens cette phrase là et après on modifie, etc., etc. Donc on pompait beaucoup.
Que des Français ou vous regardiez aussi des Américains?
Alors que des Français, parce qu'à l'époque, si tu veux, la culture, on n'avait pas vraiment ces codes là, tu vois. Et donc on fait ça et alors on teste le truc au début. Comment on fait pour tester? Parce que pour pouvoir mettre sous enveloppe, etc., etc., ça coûtait quand même pas mal de fric.
Donc, qu'est-ce que je fais?
On était rue de Cléry. Donc, à l'époque, t'as tous les mecs qui poussent des chariots, t'as toutes les boîtes du sentier là, qui sont dans le textile. Et il y avait donc Place du Caire, tous les matins. Ils appelaient ça, d'ailleurs, c'était affreux, ils appelaient ça donc le marché aux esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, tous les matins, les mecs qui avaient leur force de travail à proposer, comme sur les docks, etc., donc venaient et on disait, moi, j'ai besoin de 3 mecs pour pousser les chariots, moi, j'ai besoin de 2 mecs, etc. Ils étaient payés à la tâche, à la journée. Voilà. Et donc, il y avait plein de mecs là. Et donc, moi, je me pointe là. Je dis à Robert, je vais y aller, je vais choper 10 mecs, on va faire nous-mêmes les mises sous enveloppe et on va faire un premier test. Et puis, si ça marche sur 1000, ben, on fera 10 000 et puis après, on prendra une boîte pour le faire à notre place. Parce qu'après, il fallait, tu vois, pour en envoyer 1 340 000, évidemment, c'est pas avec mes 10 mecs que j'allais faire ça.
Tu fais un échantillon de combien de personnes?
J'avais 5 documents, donc on avait préparé les piles, une enveloppe, et donc les mecs, ils devaient mettre les 5 documents ensemble, l'enveloppe, etc. Et donc, j'avais fait 2 tables de 5, parce que j'avais pris 10 mecs. En une heure, mise souplie, ils devaient mettre, je ne sais pas, 3 minutes par enveloppe, dès qu'ils étaient un petit peu entraînés, tu vois. Et donc, j'ai dû en faire peut-être 10 000 pour les premiers tests, mais j'ai envoyé en plus au fil de l'eau, tu vois, parce que j'étais obligé d'envoyer tous les 10 000 d'un coup.
Ouais, bien sûr.
Donc, tous les jours, j'allais à la poste, et moi qui le faisais, etc. Après, j'ai appelé des boîtes. Tu vois, donc, alors à l'époque, le standard, bonjour, je me présente, etc. C'est pourquoi, voilà, vous avez reçu un email.
Ok, donc tu faisais du suivi.
Ah ben, non, mais non, j'essaie de comprendre. J'avais pas les noms des mecs. Donc, si je mets direction générale ou si je mets, donc, si j'envoie ça au service comptable, est-ce qu'il l'avait ouvert, etc., etc., tu vois. Donc là, je fais des micro-études tout seul, quoi. Bon, voilà, j'appelle et j'en déduis un certain nombre de choses. J'améliore le contenu. On a un OJD à la fin de la première année qui est en très forte croissance.
Un OJD?
Donc l'OJD, c'était l'office de justification de la diffusion, donc était l'organisme officiel donc qui validait ta diffusion pour les annonceurs. Et après j'attaque les annonces de pub, tu vois, et donc je fais le chef de pub, quoi. Je vais voir toutes les annonces de pub de Paris, tous les services médias. Là, si tu veux, je faisais des shows comme aucun chef de pub ne pouvait faire, puisque moi je connaissais tout. J'avais fait le canard, je connaissais le marketing direct, le mec pouvait poser des questions sur n'importe quoi, je connaissais tout, le prix du culot de papier, les rotatives, moi j'allais à l'usine, etc. Et donc quand le directeur média d'une agence voulait me coincer en me disant mais combien vous avez envoyé d'emails, c'est quoi votre taux, etc., je connaissais tout par cœur et je pouvais lui dire combien j'avais amélioré les scores et de quel segment je perçais et pourquoi. Et comme j'avais appelé les mecs en ligne, etc., j'avais même des exemples. Je pouvais dire bah, attends, j'étais avec un mec à La Rochelle la semaine dernière qui fait ci, qui fait ça, etc., qui fait des pompes à chaleur, quoi, et hop, je lui expliquais, tu vois. Et donc j'avais plein d'exemples à disposition. Et souvent, effectivement, donc aussi, je trouve qu'un discours rassurant, c'est quand tu dois, d'ailleurs les politiques le font tous maintenant, et pareil pour les pitchs, puisque tous les pitchs maintenant on te dit Martine 16 ans voilà, et tu donnes toujours des exemples, voilà. Et moi je fais ça naturellement, j'avais compris que c'était une force de frappe. Et donc là je me sens très fort, quoi, parce que je vois que face à la direction média, parce qu'à l'époque, on avait en face comme adversaire l'Expansion, les Échos, etc. Et nous, on était des charlots, quoi. Ils nous prenaient pour des minables, donc, parce qu'ils avaient une haute opinion des grands groupes de presse, et les petits mecs, on faisait un peu aventurier, nous. Et mon niveau, en fait, de discours était trois crans au-dessus des Échos et compagnie. Et donc là, les mecs se disaient, ah ouais, quand même, il sait de quoi il parle, quoi, tu vois, voilà. Ouais. Et donc là, on a boosté le chiffre d'affaires de manière incroyable. C'est-à-dire qu'on faisait 150 000 balles de chiffre d'affaires par numéro en pub, et on a fait des numéros à plus de 2 millions d'euros, enfin, de francs, pardon, on était en francs à l'époque. Le concurrent de l'équipe qui s'était lancé, qui s'appelait Le Sport, dépose le bilan, on rachète la marque, on le relance en hebdo. Et pourquoi en hebdo ? Parce que moi, j'adorais ce quotidien, parce que c'était des articles qui étaient très léchés, très pointus. Et donc, par rapport à l'équipe, où c'est souvent de la description, tu vois, de situation, là, il y avait de la profondeur, il y avait de l'analyse, il y avait du portrait, donc très bien écrit. Et donc, je me dis, mais en fait, leur périodicité n'est pas la bonne, quoi. Quotidien, on n'a pas le temps de le lire. Moi, je l'achète tous les jours, j'avais jamais le temps de terminer. Et en fait, c'était frustré quand tu n'as pas le temps de lire un canard et que tu l'as payé cher. Donc, je me suis dit, le bon truc, c'est hebdo. Et donc, je dis à Robert, on rachète la marque et on l'attaque en hebdo. Voilà, et on est parti là-dessus. On a fait venir Hervé Dutu, qui était à l'époque donc, la star de TF1, qui animait donc, toutes les grandes émissions sportives. Et on est parti pour créer notre hebdo, etc. Qui a été une aventure donc, assez compliquée.
Pourquoi ?
Ouais, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'équipes à l'époque. À l'époque, c'est pas automatisé. Donc, on est au début de la PAO, mais c'est pas encore complètement rodé. Ce qui accélère le plus le rythme de vie, c'est vraiment l'hebdo. Parce que le quotidien, en fait, t'as les grosses équipes, ça se cale. Etc. Mais l'hebdo, en fait, t'as même pas bouclé un numéro que déjà t'es sur le suivant. T'es en permanence dans un état de stress, tu vois, donc terrible. Du coup, j'ai vendu ces 15% à un moment donné. Et c'est avec cet argent qu'en fait, j'ai commencé à
Easy
avoir
voyage.
Du capital. Non, à l'époque, je fais un magazine de voyage
okay.
pendant 10 ans que je revends. Voilà. Et là, je découvre le secteur du voyage. Je découvre le secteur du voyage. Je me crée un réseau dans le voyage. 96, je découvre Internet parce que comme j'ai des magazines de voyage, de cuisine, etc., de sport, eh bien, je diffuse, je produis. Donc, j'ai mes photographes, je produis moi-même. Et donc, je rediffuse mes reportages dans 40 pays. Et là commence, en fait, les envois par le web. Quoi. Et donc là, je me dis, tiens... Ce truc, c'est que alors c'était hyper long, etc. Donc, ça faisait du bruit et tout. Mais bon, au lieu d'envoyer des duplicata, etc., on commençait par envoyer les originaux. Donc,
les originaux de quoi ?
Des photos, tu sais. Quand tu as des photos, tu gardes l'original, tu fais des duplicata donc de grande qualité qui te coûtent très cher, que tu envoyais aux agences, d'accord, aux autres agences dans tous les pays, qui ensuite montrent ces photos donc, à leurs clients. Mais quand tu vends une campagne, à ce moment-là, le mec, il veut l'original. Si tu vends une campagne de 4x3 en Australie, avec une photo du Grand Canyon, et ben le gars, il veut l'original. Donc
pourquoi,
là, parce que pour la qualité de l'impression.
Ah oui, d'accord.
Et donc là, t'as envoyé l'original, tu vois, donc seulement à ce moment-là. Mais avant, t'avais fait des milliers de duplicata de toutes les photos, parce qu'il a sélectionné une parmi, tu vois, parmi donc, des millions, quoi. Donc, et donc, ça coûtait très, très cher. Et donc, d'un seul coup, on commençait à numériser, quoi. Et donc, ça changeait complètement la donne, y compris pour les magazines, parce qu'on supprimait une étape qui était la photogravure. Du coup, je découvre le digital et c'est comme ça que je bascule, effectivement.
D'accord.
Parce que je me commence à réfléchir à un créneau auquel je ne connaissais rien, puisque c'était la question de départ, de dire, mais ouais. Comment on arrive à... Eh bien, en fait, par glissement progressif de concept et d'expérience, quoi.
Dans tout ce parcours entrepreneurial, c'est quoi un des moments les plus durs, émotionnellement pour toi, qui était stressant ? On en parlait avant de démarrer l'interview du fait que, ben voilà, on voit des gens sur les réseaux, sur Internet, sur les médias, et on se compare et on se dit, putain, moi, je suis une grosse merde, lui, il réussit tout. Et moi, un truc qui m'a fait beaucoup de bien en démarrant cette série d'interviews, c'est que, ben forcément, en rencontrant plein d'entrepreneurs de différentes tailles, des licornes, des boîtes qui font 500 millions, 800 millions de chiffre d'affaires, d'autres plus petites, j'ai appris à connaître plein de gens, à avoir aussi accès à plein de coulisses. Et mon niveau d'estime pour moi est monté. Parce que j'ai arrêté de me comparer.
Mais là, après notre entretien, tu vas encore monter de 2 crans.
Et il est monté parce que j'ai découvert des coulisses qui m'ont fait me dire, bah, en fait, je suis peut-être pas si nul là-dessus. Et, parce qu'avant, je me comparais justement, c'est un peu cette idée de... Tu compares ton monde intérieur que toi, tu connais bien à un monde extérieur léché, photoshopé, qui n'existe pas.
Ouais.
Et donc cette question pour moi, elle est clé, je vois à chaque fois pour les auditeurs, de prendre le temps... Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on avance et donc on les passe. Là, j'aimerais que tu prennes vraiment le temps qu'on le vive dans tes yeux et dans tes émotions, cette galère, par quoi t'es passé, ce que t'en as appris.
Tout ce que tu viens de dire est extrêmement juste. Je pense que quand on se compare, il faut être sûr qu'on se compare bien, effectivement, donc sur les mêmes conditions. C'est-à-dire que dans les vies rêvées, donc racontées par les gens, donc pour parler par ceux qui, effectivement, donc font un métier donc de raconter leur vie, On met toujours en avant, évidemment, que les succès, que les moments heureux, etc. Mais on voit bien que si on prend, on fait le parallèle avec des stars, donc du show business, on voit bien que il y a beaucoup de dépression, que il y a des moments à très bas rendement. Les réseaux sociaux, donc certains influenceurs du business, donc ont 5-6 personnes donc qui bossent pour eux. Et donc on a toujours l'impression que c'est le gars tout seul. Ben, c'est impossible de faire tout ça tout seul. Et donc forcément qu'il y a des équipes aussi derrière. Et que le personnel branding correspond effectivement donc aussi à des structures et à des choses qui vont derrière. Donc, pour tous ceux qui effectivement donc se comparent, comparez-vous en ayant en tête que une partie de ce que racontent les autres n'est pas forcément effectivement donc toujours donc aussi simple que la narration qu'ils en font. En ce qui me concerne, donc moi, ça a toujours été très dur. C'est-à-dire que là, je raconte ça de manière marrante, etc. Parce que c'est une de mes caractéristiques. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait de burn-out. J'ai toujours effectivement donc trouvé des solutions, etc. Parce que je marre, quoi. Je me fais des blagues, etc., etc. Et donc, comme j'ai raconté tout à l'heure, et que j'aime les relations sociales, et que globalement, effectivement, donc chaque jour qui passe, je me nourris chaque jour de quelque chose, quoi. Et donc, ça arrive à me faire passer des caps. Mais il est évident que j'ai été confronté à des degrés de difficulté extrêmement élevés, puisque j'ai démarré sans capital, donc évidemment avec toutes les difficultés qui vont avec, que j'ai souvent eu plus d'ambition que les moyens qui étaient à ma disposition. Dans l'émission, tu vois, qui est mon associé, donc j'ai dit, moi, mon argent, donc on investit son argent comme on l'a gagné, et moi, mon argent, il sent plus la sueur que le bonheur. Si tu veux, c'était pas de la formule, quoi. C'est un fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours effectivement gagné. J'ai fini par y arriver, donc plus ou moins, hein, non, mais en tous les cas, j'ai fini par y arriver, plus ou moins. Tu sais, il y a une phrase de Blondin qui est géniale sur le Tour de France cycliste où il dit, il arrive à premier dans un état second. Voilà. Ben moi, j'ai souvent été dans cette caractéristique, c'est-à-dire du gars qui finit par y arriver, mais quand même un peu sur les genoux. Et donc, un exemple concret, quand je crée mon groupe de presse, je crée mon groupe de presse avec le capital que j'ai gagné donc, à entreprendre, qui est 1 million de francs. Je mets 600 000 pour créer le groupe de presse et j'ai 400 000 que je laisse de côté en me disant, plutôt que de me payer, j'ai vu là-dessus. Mes 400 000, donc, je les bouffe en 4-5 ans parce que je ne me paye pas. Et les 600 000, très vite, se montrent insuffisants parce que pour faire du capitalisme, il faut des capitaux. Et j'avais, pour moi, beaucoup d'argent, mais en fait, pas beaucoup pour lancer un magazine. À l'époque, pour lancer un canard, tu mettais plutôt 10 millions de francs. Voilà, et moi, j'avais mis 600 000 et j'en avais lancé plusieurs. Et donc, je passais mon temps à jongler, je créais des concepts en permanence, certains marchaient, certains ne marchaient pas. D'aucuns pourraient dire que je faisais de la cavalerie, ce n'était pas exactement ça, parce que quand même, je tenais donc, la durée, les différents projets. Mais c'est clair que j'étais toujours en train de jongler en termes de trésorerie. Et notamment, je payais l'imprimeur assez tard. Je lance deux nouveaux magazines donc, au bout de 5-6 ans, l'un dédié au sport pour magazine et l'autre dédié à la mer. Et jusque-là, j'avais toujours gagné. Et cette année-là, donc, je perds 20 millions de francs. Et l'année suivante, 15 millions. Et l'année d'après, j'ai mis à zéro. Donc, j'avais gagné 1 million. Voilà. Donc, j'étais monté à 7 millions de gains. J'avais fait 50 000 balles, 500 000 balles, 1 million et demi, 7 millions et demi. Hop, moins 15, moins 20. Et donc, forcément, c'est 35, j'avais 7. J'avais fait rentrer un petit fonds à un moment donné pour 500 000, 1 million. Et donc, voilà. Donc j'étais 7 plus 1, ça fait 8. Moins 30, tu vois. Donc, il me manquait 20 plaques. Mais le gros était géré sur le BFR.
Décris le BFR pour tout le monde.
Alors, le besoin en fonds de roulement, il est clair qu'il y a des métiers donc, où on achète les produits et on les paye tout de suite. On les transforme, on paye tout de suite. On les livre, on paye le livreur tout de suite. On les distribue et le distributeur te paye 6 mois après. Et entre le début et la fin, tu as parfois 12 mois. Et donc, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est que il faut tenir les 12 mois pour avoir tes premiers encaissements et donc avoir les moyens de financer toutes ces différentes étapes. Moi, c'était l'inverse. Je recevais le magazine, je pouvais affacturer donc, mes pubs tout de suite. Donc, le gars me donnait l'argent de toutes les pubs qui allaient être payées à 90 jours.
Donc, j'avais marche, l'argent vraiment de quoi croître.
Tout de suite, exactement. Et la distribution, tu avais une traite que tu pouvais escompter sur 80% des ventes estimées. Donc, au début, quand tu lances des trucs, tu as plein de trucs qui rentrent. Mais à un moment donné, ils commencent à sortir. Et puis, quand ils commencent à sortir plus qu'ils ne rentrent, eh ben, ça devient effectivement donc, un peu compliqué. Et à un moment donné, je me retrouve donc en situation de quasi-cessation de paiement.
Et là, tu te vis comment émotionnellement déjà?
Mais ça faisait un moment que je me préparais. Là, je bossais jour et nuit, donc je faisais tout. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu coupes des coûts, tu supprimes des postes, et tout ça, tu fais à la place des gens. Et donc, tu commences à vivre un enfer. Moi, à un moment donné, j'avais 7 comptes en banque. Je jonglais entre les 7 comptes.
Ça, ouais. Physiquement, ça se traduit? Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que tu as mal à la mâchoire? Est-ce que tu dors moins bien?
Non, alors tu dors pas, ça c'est clair, non, parce que tu as tout en tête. Donc,
oui, t'arrives, ton cerveau, il s'arrête pas, quoi.
Ébullition permanente, tu vois. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une nuit donc, où j'ai dormi 15 minutes, tu vois. Je me suis réveillé, j'ai mis la main sur mon crâne. J'aurais pu faire un œuf au plat, quoi, tu vois, tellement, effectivement, donc tellement il fallait que ça sorte, quoi, tu vois.
Et comment tu fais pour pas craquer? Parce que souvent, quand on dort pas assez, au bout d'un moment, on craque.
Non, mais c'est très dur, c'est très dur.
Mais c'est quoi, tu fais du sport, t'essaies de...
C'est une de sport. Moi, je faisais beaucoup de sport avant. Si tu veux, tout le poids que j'ai pris, c'est parce que c'est le cumul d'années de stress, tu vois. Donc, dès que je suis plus stressé, hop, je refais du sport, je rebaisse. Dès qu'effectivement, donc, le stress est là à nouveau, je reprends. Voilà, parce qu'en fait, il faut bien que tu compenses par quelque chose. Donc, moi, je picolais pas. Je me suis jamais drogué, etc. Et donc, je bouffe. C'est une manière, effectivement, de compenser. En fait, pourquoi tu bouffes? Parce que tu cherches des petits instants de bonheur, quoi. T'as que des merdes. Toute la journée, c'est que des merdes. Moi, j'ai eu des journées où j'arrivais donc à 7h30. Je quittais, donc, je sais pas quoi, moi, à 22h, 23h. Et j'enquillais. J'avais quand même 120 salariés, etc. Et c'était qu'un défilé de merde, de téléphone, de machin, que de gens, effectivement, donc, qui m'apportaient des problèmes et auxquels il fallait que je trouve des solutions.
Pour essayer de me mettre dans ta peau, tu vas te tendre, tu vas être en colère.
Alors oui, bien sûr, tu deviens extrêmement irritable. Bien sûr, tu deviens irritable. C'est-à-dire que... Et tu deviens insupportable parce qu'en fait, personne ne comprend tes enjeux. Et donc, il y a un décalage énorme entre le niveau de stress qui est le tien et les enjeux que tu es en train de vivre et la perception de l'extérieur. Et donc, quand un gland vient te faire chier avec un problème à la noix, alors que toi, tu es en train de gérer, tu vois, donc des problèmes de fond qui vont peut-être faire que tu vas ou survivre ou mourir. Évidemment que tu vois, c'est comme, je sais pas moi, une nana, une influenceuse qui rentrait dans un bloc opératoire de chirurgie lourde pour dire on pourrait m'opérer de mon petit bouton sur le nez ou je sais pas quoi, alors que le mec est en train de sauver un type qui a peut-être crevé. Et donc voilà, et donc moi je faisais de la chirurgie de guerre, j'étais pas dans la chirurgie esthétique, donc chaque fois qu'on venait me voir avec un petit problème à la noix, alors même que j'avais plutôt d'habitude le profil du gars qui aide tout le monde à gérer les problèmes, etc. D'un seul coup, là, tu deviens, voilà, et t'envoies balader des gens, et donc tu deviens moins bon. Parce que forcément, tout mon modèle de réseau relationnel où j'encourage, j'anime, je fais en sorte que les gens soient boostés, etc., d'un seul coup, effectivement, donc, il s'écroule. Et donc, tu rentres dans un cercle très mauvais. En plus, tu payes tard, tu commences à plus payer les gens. Donc, tu as toutes les journées des coups de fil de gens qui t'appellent pour te dire, mais ma facture n'a pas été réglée, etc. Tu vois, voilà. Donc, un, j'ai remis les compteurs à zéro, donc ça m'a pris 2 ans, mais donc j'ai duré 2 ans. Ce que je raconte là, c'est 2 années, hein, c'est pas deux soirs, quoi, c'est 2 années, voilà. Donc là, pas de vacances, pas de machin, etc. Hein. Je suis parti une semaine en vacances, je passais mon temps à appeler une cabine téléphonique, les banques, pour dire alors, faites-moi un virement d'ici, de là, etc. Tu vois, tous les matins, c'était effrayant, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, il faut mieux être au contact avec que ça en tête et à jongler dans tous les sens. Et puis, un matin, je me dis, bon, bah, ok. J'ai remis les compteurs à zéro, ce qui était le plus dur. Donc maintenant, je suis crédible pour pouvoir parler avec tous les gens à qui je dois du fric. Et donc, je devais 20 millions de francs à mon imprimeur. Alors, c'était beaucoup d'argent, mais il faut dire que comme je payais tard, il me surfacturait depuis des années des intérêts qui lui avaient constitué un petit matelas. Mais en tous les cas, pas à la hauteur de ce que je lui devais. Et le gars m'adorait. Non seulement il m'adorait, mais il me prenait pour un type génial, quoi. Et donc, il disait toujours, ah, attends, le meilleur éditeur de Paris, c'est Nadir. Le mec, vous connaissez pas Nadir, mais c'est incroyable. Il a 28 ans, il fait des trucs incroyables, etc., etc., etc. Et donc, ce type, j'allais le décevoir au plus haut point, quoi. Donc il y avait une double peine. J'allais voir mon fournisseur pour lui dire que je pourrais pas le payer et que donc, il fallait qu'on l'étale. Et je savais qu'en plus, émotionnellement et affectivement, ça allait être pour lui une déception énorme. Et pour moi aussi, puisque quelque part, quand on te dit que t'es bon et que t'es génial, etc., t'as tendance à y croire. Mais là, le rideau de fumée était tombé et j'étais pas si génial, j'étais pas si bon que ça. Et donc, il fallait au moins que je sois courageux. Et donc, je l'appelle et je lui dis, il faudrait qu'on se voie. Il me dit, ah bah ouais, on dîne la semaine prochaine et tout. Je dis, non, je viens à l'usine. Il me dit, ouais, prends ton temps, il n'y a pas... Je dis, non, je viens demain. Voilà. Et donc, c'est ce soir-là où j'ai dormi un quart d'heure et j'ai le crâne qui était prêt à exploser. J'ai pris la bagnole, j'ai pris l'autoroute. Je me suis arrêté 2 fois pour vomir. J'ai jamais pleuré, mais voilà, j'avais mal au bide, j'ai vomi, etc. Et donc, je suis arrivé là-bas et je savais que j'allais me faire défoncer, quoi. Et que j'allais acter le fait d'avoir été un imposteur, puisqu'on me prenait pour un type génial qui réussissait tout. Alors qu'en fait, effectivement, donc, j'avais réussi plein de choses, mais pas suffisamment pour gommer les choses que je n'avais pas réussies. Sauf que j'avais quand même remis à zéro et que je regagnais 1 million. Donc, j'avais quand même de quoi nourrir le discours et montrer que j'avais pris les bonnes mesures, que j'avais trouvé les solutions, que je m'étais démené, etc. Et que ce n'était pas juste par faiblesse, par paresse ou par négligence. Voilà, c'était parce que j'avais pris des risques, que de temps en temps, les risques, ils fonctionnent. Quand ils ne fonctionnent pas, eh ben, il y a un prix à payer. Et en presse, il faut savoir que quand ça gagne, c'est ça gros. Gagne un petit peu,
ah, okay.
Et très peu de temps. Et quand ça perd beaucoup et longtemps. Et donc, voilà, il a fallu que je remette tout ça au carré. Et donc, j'arrive, bon, voilà, à l'usine. Il est avec sa directrice financière. Donc, et je leur dis, voilà, et j'explique, il faut que je vous explique la situation, etc. Et là, j'ai commencé à expliquer et je vois qu'il se décompose, quoi, au fur et à mesure que j'explique. Et à un moment donné, il se met à hurler. Donc, et quasiment, il veut me frapper, quoi. Et donc... voilà, et moi, de toute façon, il m'aurait frappé, hein, j'aurais pas, j'étais, bon, je considérais que, de toute façon, effectivement, donc, c'était une séance, donc, qui allait être douloureuse à tous les niveaux, elle aurait pu aussi être physique, ça n'a pas été le cas, et je suis reparti de là, donc, à la fois décomposé, et en même temps, évidemment, soulagé. Donc, j'avais fait preuve de courage pour remettre à zéro, de courage pour lui expliquer les choses, et comment on allait en sortir, mais pour en sortir... il fallait que la Bologne partie de la créance, parce que sinon, je n'avais aucune chance. Voilà. Et donc, j'ai réussi à revendre le groupe, pour finir, en ayant baissé donc, mon niveau d'endettement, donc en ayant vu 300 fournisseurs, parce que j'avais des photographes, par exemple, individuels, à qui je devais 10 000 francs. Bon. J'ai fait en une semaine 300 fournisseurs à qui j'ai renégocié les créances. Donc, je voyais des gens à qui je disais, « Salut, je te dois 10 000. Eh bien, écoute, je peux te payer tout de suite mes 5 000. » Voilà. Il faut que tu me signes le papier, sinon, effectivement, de toute façon, mon système ne marche pas. Parce que j'avais fait à l'époque, il y avait un mandat ad hoc au tribunal. Juste, j'étais accompagné par un administrateur judiciaire qui me permettait de renégocier mes créances. Et donc, j'ai vu toutes les banques, j'ai vu donc l'imprimeur. C'est terrible. Mais il y a des gens qui arrivaient, les mecs voulaient me casser la gueule. Le mec dit, je vais te péter la gueule, je vais casser ton bureau. Je dis, ok, qu'est-ce que tu... Et parce que si tu veux, pourquoi c'est très dur? Parce que tu es dans une position totale de faiblesse. Et que là, pour le coup, pour convaincre des gens de t'accompagner dans cette logique-là, si tu veux, tu commences par leur expliquer qu'ils vont perdre, effectivement, donc une grosse partie, enfin la moitié de ce que tu leur dois. Et certains, ça peut les mettre en très grande difficulté. Mais je n'avais pas le choix, parce que de toute façon, si je ne faisais pas ça, c'est tout qui s'écroulait et ils avaient zéro, tu vois. Et il fallait que j'ai 100% de signature pour faire passer le plan. Ah, donc, on peut te dire que ça a été... moi, j'ai encore des exemples en tête, etc. Tu vois, de trucs qui ont été terribles.
En tout cas, c'est super intéressant. Je ne sais pas si tu as regardé le documentaire là, qui est sur Netflix, sur Madoff. Et typiquement, il fait un choix pour le coup qui est très différent du tien. Et je pense que ça l'a mis sur une trajectoire où il s'est perdu. C'est qu'il se retrouve dans une situation où ben, il a récupéré de l'argent de plein d'investisseurs. Il n'a pas vraiment investi, donc du coup, il doit beaucoup d'argent. Mais c'est trop dur pour lui. Il a commencé à s'attacher à l'image qui s'est créée du mec qui sauve des gens, il rapporte de l'argent aux gens. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans la psychologie de Madoff, c'est que tu vois qu'au fond, il a envie d'être généreux. Il a envie d'être la personne qui aide. Mais devoir... assumer auprès de ces personnes-là qu'il a foiré, c'est trop dur et donc il le fait pas. Et là, ça rentre dans un truc où en fait il arrive plus à s'en sortir. En fait, enfin,
tu vois, moi j'ai réussi. J'ai pris la mesure de la situation et j'ai accepté les conditions. Alors, ceci dit, j'étais beaucoup moins connu que Madoff, j'étais beaucoup plus jeune et donc.
Mais même jeune, il a déjà une opportunité de se recaler, mais ouais. Il veut pas.
Okay. Parce que tu vois, parce que l'âge, ça joue aussi vachement. Parce que tu te dis, j'ai encore 3 vies derrière.
Et je te parle, il est encore jeune quand même. La première fois, ouais. Il a une opportunité, il a foiré, mais il c'est trop dur pour lui d'accepter.
Non, mais c'est très dur. Moi, j'avais envie de croire aussi au fait que j'étais un type génial et qui savait tout faire, etc. et qui réussissait tout. Et puis d'un seul coup, donc, j'ai eu une première difficulté, puis une deuxième. Alors, il y a des éléments de contexte, parce que si on veut aller au bout du sujet... Le kilo de papier est passé de 2,50 francs à 6 kilos. La pub, on a eu la loi E20, j'ai perdu 4 millions de francs sur les cigarettes. Donc, j'avais tous mes canards qui étaient pleins de pubs de cigarettes. D'un seul coup, on me dit c'est zéro l'année prochaine. J'ai essayé de gérer tous ces éléments, etc. J'avais fait des lancements et donc j'étais à contre-cycle parce que j'aurais surtout pas dû lancer des trucs au moment où le kilo de papier double. Mais si tu veux, je le savais pas avant. C'est comme le mec qui lance une affaire au moment du Covid, quoi. Tu vois, bon, bah, voilà, le pauvre, effectivement, donc ça tombe mal. Et donc, voilà, m'en suis pris plein les carreaux et moi j'avais pas d'avance, j'étais toujours sur la corde raide et donc forcément quand ça commence à déconner ça bascule très très vite quoi et donc je me bats, j'essaye de me sauver les miches en lançant un nouveau canard et en me disant mais celui-là il va rapporter pour payer les autres etc tu vois et en fait c'est pire, je creuse le trou et tout donc après je prends des vraies bonnes mesures donc au bout de 2 ans et là je remets à zéro tout seul hein.
Et donc du coup après ça comment ça va se passer?
Alors je vends parce que du coup j'ai remis à zéro, j'ai racheté les créances. Donc comme j'ai racheté les créances à moins 50, eh ben donc du coup je redonne de la valeur et de la visibilité au groupe et je vends au groupe Aguesso qui lui avait fait côté sud, côté ouest, etc.
Là,
et je repars avec un peu d'argent, mais je repars avec guère plus que ce que j'avais 10 ans avant quand je crée le groupe de presse. Et là en fait j'ai quoi? J'ai à nouveau un petit capital. J'ai une bonne image de moi, parce que tu t'es pas déballonné, quoi. Voilà, j'aurais pu me déballonner, tu t'es pas déballonné, t'as affronté le truc, c'était pas facile, donc ça démontre que t'as pas tout compris, que t'es pas si bon que ça, donc qu'est-ce qui reste à travailler pour être meilleur, et puis ensuite, où tu vas pouvoir mettre à profit cette expérience que t'as, etc.
Bah déjà, merci d'avoir partagé cette phase de ta vie. Je pense que ça permet vraiment d'avoir du recul sur ce que c'est l'entrepreneuriat. Et moi, j'aime beaucoup. Je me mets à ta place de voir appeler autant de personnes. On a envie de réussir et de voir se regarder soi-même et aussi de se dire, bon, OK, je suis peut-être pas aussi génial que ce que j'imaginais. Qu'est-ce qui me reste à apprendre? Comment cette expérience, quelque part, qui à la fois te montre là où t'es bon, parce qu'il y a plein de trucs que t'as fait qui ont marché, à la fois au niveau business, mais aussi humainement, et ça te rend humble sur ce qui te reste à apprendre. Comment cette phase-là va déclencher plus tard une grosse réussite?
Le fait que, effectivement, donc, un, j'ai affronté cette réalité et que j'ai trouvé des solutions fait que j'ai aussi déclenché donc, des supporters. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit bah, ce gars-là, on peut lui faire confiance. Voilà. Et donc, j'ai créé quand même un petit réseau donc, d'amitié assez solide donc, dans le domaine du voyage principalement, mais aussi dans le domaine donc, du business. Donc ça a été mon premier finalement capital. Deuxièmement, donc, j'avais compris un certain nombre de choses en matière de digital. Je voyais bien un peu que ça allait être la révolution. Et donc là, on est en 99 quand je cède le groupe. Je dois rester un an avec les repreneurs. Je reste un an. Alors un an où j'ai pas grand chose à faire, quoi. Je reste 10 mois, en fait, et moi, je voulais pas rester, parce que j'avais dit, mais moi, je suis entrepreneur, etc. Donc, il dit, non, mais on fait le deal que si tu restes. La presse pratique de voyage, de cuisine, tout ça, ça va basculer sur le web. Donc, il faut qu'en fait, on développe un groupe web. Et je leur dis, moi, je veux me relancer là-dedans, et donc, faisons-le ensemble. Et ils me disent, OK, très bien, intéressant. Et bon, ils me font une proposition, ils me filaient 5% des parts. Voilà, je dis, mais non, moi, je veux bien que vous soyez majoritaire, mais il me faut au moins 40%, quoi, parce que voilà, ça va être, c'est là que je vais faire la deuxième phase, c'est là que maintenant je vais réussir un gros coup, etc. Et donc, il me faut un gros pourcentage. Même négo qu'avec Lafond, quoi. Bon, des années plus tard, je reviens sur le même truc. Et ils veulent pas. Et donc là, j'avais dans mes relations un groupe de presse qui s'appelait donc Presse Image, qui était très spécialisé dans la presse informatique. Ils faisaient tous les canards, tu sais, où il y avait des CD-ROM inclus dans les magazines. Là, c'était la grande époque. Eux, ils gagnaient beaucoup de fric. Et eux, ils voulaient travailler avec moi depuis longtemps. Et ils me proposent donc de m'accompagner. Donc, si je fais un truc dans le web, etc., on commence à discuter. Voilà. Et puis, un autre pote qui est décédé, malheureusement, qui était un type assez génial, donc Frédéric Chevalier, qui a créé The Camp à Aix et avant qui avait fait donc le groupe Aiko, qui avait le même âge que moi, enfin il avait un an plus que moi, et lui donc il avait mieux réussi que moi. Et j'ai vendu mon groupe de presse, donc il m'a invité à dîner et il m'a dit, voilà, je mets 500 000 euros sur ton projet, donc ton nouveau projet. Mais je lui dis, mais tu sais même pas que j'ai un nouveau projet. Il dit, non, mais je me doute que t'as un nouveau projet. Je lui dis, mais tu sais même pas ce que c'est. Il dit, oh, je m'en fous. Moi, je mise sur toi.
Justement, tu parlais de faire un gros coup, un nouveau chapitre. À quel moment tu te dis, waouh, là, c'est vraiment en train de marcher.
Donc, 2003, je me rends compte que ça va marcher. Donc, je lance en 2000, donc 3 ans quand même. Hein. Donc, 2003 et 2004. Bon, j'ai une image précise comme celle de l'imprimeur. Je fais une petite sieste, tu vois. Et il y a la fenêtre est légèrement ouverte. Il y a une petite brise. Je sais qu'on va faire 500 000 d'EBITDA et qu'on va partir pour faire 1,5 million l'année suivante. Le temps s'arrête et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai aucun emmerde à l'horizon.
Là, tu respires là.
Voilà, et je me dis, tiens, et là, je dors du sommeil du juste, comme on dit, tu vois, parce que je me dis, bah, tiens, là, je m'endors avec aucun sujet, quoi. Voilà, j'avais que des bons sujets et j'avais pas de merde à traiter, etc., et de trucs qui me trottaient dans la tête et de trucs compliqués, etc. Voilà, pour une fois, il y avait plutôt donc un ciel bleu, donc avec un grand soleil, donc à l'extérieur, donc et une route pavée de bonnes intentions, de bons sentiments et de bonnes choses à venir.
J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, t'as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année, c'est notre année et on avance ensemble.